Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Les ateliers de la nuit. Ce soir, c'est une silhouette. Une grande silhouette, un grand blond, sans chaussures noires, mais plutôt avec des palmes, ou en tout cas en maillot de bain, sur les photos. On le voit grand blond, avec une mèche qui lui barre le front. Parfois une barbe, le visage sourit. Faites-vous l'image et écoutez l'atelier du son, consacré au compositeur de musique de film, François de Roubaix. C'est une évocation, un hommage, une envie de l'imaginer, de le voir, au-delà du blond, des palmes et du maillot de bain. Mais l'image, c'est déjà un film, et c'est ce qu'il aimait, des images pour imaginer. François de Roubaix, quand on dit son nom dans l'univers de la musique électronique, aujourd'hui, on reconnaît l'héritage, plus vivant que jamais. François de Roubaix n'est plus là, mais ses sons résonnent encore, et ce soir jusqu'à minuit, plus que jamais, avec Thomas Baumgartner et ses trois invités.
C'est ce qui est très important par rapport à ma formation, c'est que j'ai un papa qui est producteur de courts-métrages et éventuellement de longs-métrages. Depuis très longtemps, je travaillais épisodiquement avec mon père. J'étais assistant à mise en scène, j'étais photographe de plateau, ingénieur du son. Et alors à l'époque, j'ai commencé le jazz, j'ai fait un petit peu de montage chez lui. Et puis c'est à ce moment-là que, au cours d'un film où je faisais du montage, Enrico m'a dit « Mais tu fais de la musique, pourquoi tu ne ferais pas de la musique de film ?» Alors c'est donc à partir de ce jour-là que les deux choses se sont rejointes. La passion musique et l'envie de faire du cinéma se sont parfaitement épanouies dans un premier court-métrage très technique pour le ministère de l'Agriculture, mais où j'ai fait mes premières armes, sous l'œil bienveillant de mon père et d'Enrico. Voilà.
Bonsoir à vous. Dans l'ADN de l'atelier du son, il y a la musique ludique qui sait faire sonner les choses. Une musique où la bidouille de la fabrication contribue à l'émotion et à l'énergie. Et quand on parle comme ça, il y a une figure qui vient très vite en tête, celle de François de Roubaix. François de Roubaix, cet inventeur, musicien d'images, chercheur électronique, qui a disparu il y a bientôt 36 ans, à l'âge de 36 ans. Il a écrit et joué certaines des musiques de films les plus marquantes des années 60 et 70. Il a cherché de nouveaux sons, il a ouvert des pistes ce soir, Patricia et Benjamin de Roubaix, ses enfants, Gilles Loison, son biographe, et Stéphane Lerouge, qui édite ses disques, seront nos guides dans l'atelier du son de François de Roubaix.
Alors ma formation, à partir de là, a été totalement empirique. À la fois le jazz, si vous voulez, c'est une musique extrêmement empirique, puisque c'est une musique qu'on n'apprend pas, une musique qu'on fait essentiellement à l'oreille. La technique du cinéma, je l'ai apprise moi aussi d'une façon empirique, parce que c'était, disons, facile pour moi. J'ai pas du tout étudié l'harmonie, j'ai pas du tout étudié le contrepoint. C'est en faisant énormément de courts-métrages, de publicitaires, et puis de longs-métrages. Je crois qu'il n'y a pas de miracle dans ce domaine-là, c'est la seule formule. Il n'y a de toute façon pas d'école de musicien de film.
Et c'est la voix de François de Roubaix qui a ouvert cette émission. Bonsoir à tous les quatre, Patricia de Roubaix, Benjamin de Roubaix, Gilles Loison, Stéphane Lerouge, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
On l'a entendu à l'instant François de Roubaix dire que c'était une approche empirique qu'il avait de son métier, de la musique et du son, l'approche comme ça par la matière, parce que c'est ça être empirique, par la pratique, ça définit bien son style, Stéphane Lerouge.
Pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire que j'ai le souvenir de quelqu'un qui était très important pour Derouet, qui était un orchestrateur,
oui.
qui s'appelait Bernard Gérard, mmh. et qui était un peu une sorte de sherpa pour lui sur ses premières musiques, notamment sur Les Grandes Gueules et Les Aventuriers, parce que Derouet ne savait pas comment gonfler ce qu'il avait écrit sur deux lignes, pour une formation donnée. Et à un moment donné, il a demandé à Bernard Gérard, il lui a dit « Mais tu ne crois pas que je devrais prendre vraiment des cours d'harmonie ?» Et je me souviens très bien de Bernard me faisant cette réponse. Il m'a dit, j'ai répondu à François, surtout ne fais pas ça, parce que sinon tu vas passer l'instinct musical, l'instinct harmonique que tu as notamment à l'eau de Javel. Tu vas te formater. Mm-hmm. Au contraire, ce que tu n'as pas appris, ce qui est justement empirique, comment dire, fais ta singularité et surtout ta différence. Et il faut que tu gardes cette différence-là.
Gilles Loison, il y a un livre que vous avez écrit, co-écrit, une biographie de François Derouet qu'on attend, hein, qui est une sorte d'instance de diffusion en ce moment.
Oui.
Et on voit dans ce livre, il y a une très riche iconographie, on voit les partitions. Alors, est-ce qu'il écrivait la musique, François Derouet ?
Pas au début, mais enfin, il s'y est mis à une certaine époque, oui, pour pouvoir notamment déposer à la SACEM. Donc, il avait besoin de relevés de partitions. Mmh. Et il s'est mis à écrire, mais il composait beaucoup chez lui. Il enregistrait beaucoup ses musiques. Et il écrivait les mélodies principales. Et ensuite, il avait des copistes, des orchestrateurs qui l'aidaient à faire le matériel pour diriger les orchestres ensuite.
Il faut dire qu'il savait écrire. Il savait pas ni écrire ni lire la musique au départ.
Mmh.
Donc forcément, il a dû s'y mettre plus tard.
Alors quand on dit approche ludique du son et de la musique, c'est vrai pour vous, Patricia Derouet ?
C'est d'autant plus vrai que je vais pouvoir étayer le début de ce qu'expliquait François.
Ouais.
La première musique qu'il a faite, en fait, et ça m'a été raconté par Robert Enrico, c'était une musique donc pour un documentaire, et il est arrivé avec une mallette, et il a sorti des verres, et il a mis de l'eau, et il a commencé à faire une musique avec ces verres. Et justement, Robert Enrico était complètement halluciné, il a dit, mais c'est quoi ce délire ? Il ne le connaissait pas, mm-hmm. C'était la première fois qu'il faisait donc une musique pour un film.
Mais une musique pour un film de Robert Enrico, ce qu'il a fait plusieurs fois, et c'est aussi avec Robert Enrico qui passe au film de fiction grand public, Stéphane Le Rouge.
Ouais.
Ça se passe au milieu des années 60, c'est ça, c'est une grande étape.
C'est en 65 et Derouet a pile 26 ans. Et là, Enrico va vers quelque chose qui est vers un sujet qui est lié à un homme qui va être aussi déterminant pour Derouet. C'est un roman de José Giovanni. Et brusquement, Derouet se retrouve sur son premier film avec Enrico, avec Giovanni et avec une sorte de western vosgien auquel il va donner une partition absolument défenestrante.
Voilà. Mais on va continuer ce soir dans l'atelier du son à creuser un peu le style, les méthodes, les recherches de François Derouet. Et pour remettre peut-être dans les esprits de qui nous écoutent ce soir le style et une des grandes musiques qui ont marqué, signé François Derouet, je voudrais qu'on écoute la musique d'un film donc de José Giovanni que vous venez d'évoquer, Stéphane Le Rouge. Le film intitulé La Scoumoun. Et alors, c'est pas la version originale, c'est une maquette. C'est une maquette qu'on trouve sur une des anthologies. Et il y a un jeu de stéréo. Si vous vous rapprochez de la gauche ou de la droite, par moment, il y a une voix, une autre. Voilà, ça permet aussi de bouger autour de l'enregistrement.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la
Une maquette de travail pour le moins aboutie hein, de la chanson, de la musique du film La Scoumoune de José Giovanni, donc signé François de Roubaix. Je dis pour le moins aboutie parce qu'il y a un lieu qui est assez fondamental dans le travail et l'écriture de François de Roubaix, c'est son home studio, son studio domestique, comme on disait à l'époque, qui se trouvait donc rue de Courcelles. C'était chez vous, Patricia de Roubaix, ce home studio?
Absolument, oui, c'était le salon. C'était ouais. Le salon qui était agencé, c'était une belle pièce en rotonde et qui était agencée en studio de musique et en lieu de bœuf le samedi soir.
Ouais.
Voilà, donc il a fait cette maquette. On a été plusieurs à enregistrer pour cette maquette.
Il y a plusieurs voix en fait.
Il y a plusieurs voix, semble-t-il, parce qu'on n'a rien sur la bande qui détermine qui sont les voix.
Ouais.
Mais je sais que Rosario, la maman de Benjamin, a participé. Moi-même, j'ai été enregistrée pour ça. Ma mère se demande si elle ne l'a pas fait aussi. Il avait un peu tendance à mélanger comme ça plusieurs voix. Et il y avait probablement aussi des chanteuses professionnelles avec lesquelles il travaillait, parce que nous, en l'occurrence, nous n'étions pas des chanteuses professionnelles.
À l'époque.
Mais je pense, à l'époque, bien sûr. Mais je pense que c'était là tout l'intérêt et le travail de François, c'était de mélanger des gens qui étaient des professionnels et des non-professionnels, des bruits qui venaient de l'extérieur, que ça soit un tuba de plongée.
Ouais.
Et il en faisait en fait des instruments de musique.
C'est ça, des instruments, des voix professionnelles ou non, des instruments qui en sont initialement ou pas.
Exactement.
Voilà,
et tout ça devenait des instruments. Que ça soit un tuba de plongée ou la voix d'une petite fille qui ne savait pas chanter, ça devenait un instrument.
La question de l'enregistrement, c'était quelqu'un, François de Roubaix, qui enregistrait beaucoup, beaucoup tout le temps, qui a laissé beaucoup de bandes, justement, parfois peut-être avec des énigmes, si tout n'est pas écrit sur cette bande-là. Benjamin de Roubaix, il y a énormément d'enregistrements qui restent de votre père. Alors des morceaux de musique, mais plein d'autres choses.
Ah oui, tout à fait. Il y a ma sœur qui en a pas mal. Non, je crois que je suis à la bonne distance.
Stéphane Leroux qui vous demande de vous rapprocher du micro, mais tout va bien.
Tu es à la bonne distance.
Et voilà, je sais que Stéphane en a quelques-unes aussi.
Voilà, oui, parce que ça continue d'être exploité. Donc voilà, Stéphane a encore dans les studios quelques musiques qui n'ont peut-être pas, dans lesquelles il y a encore des petits trésors.
Voilà, Gilles Loison aussi en a quelques-unes. D'ailleurs, à son initiative, cette année, nous avons sorti un disque qui reprend les musiques que François a composées pour des courts-métrages, c'est-à-dire à peu près, je pense, en début de carrière. Et il m'a donné ce CD que j'ai ensuite envoyé à un éditeur belge et qui en a fait un magnifique 33 tours qui s'appelle Court-métrage. Alors voilà, je pense qu'il avait vraiment un talent à la fois de compositeur et à la fois d'orchestrateur. Je pense que c'était une personne qui était totalement indépendante, mais qui avait aussi besoin de s'entourer de collaborateurs pour arriver à travailler, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul.
Oui, vous parliez tout à l'heure, Stéphane Leroux, de la question de l'orchestrateur, mais François de Roubaix était un homme du collectif, un homme du groupe. Patricia de Roubaix, à l'instant, vous parliez
des
bœufs du samedi soir.
C'était très, très, très important. C'était d'autant plus important qu'il y avait des grosses pointures qui venaient jouer. Alors, la plupart des amis, soit jazzman éclairé qui l'a en l'occurrence joué avec les pointures, et les autres qui pouvaient être les épouses qui s'ennuyaient ou qui s'ennuyaient pas, j'ose espérer, participaient aussi. C'est-à-dire que François leur donnait un instrument, même si elles ne savaient pas chanter, et leur disait voilà, là tu as le triangle, et à un moment donné je te ferai un signe. Et ils n'oubliaient pas de faire le signe. Et donc petit à petit, tout le monde s'y mettait et s'amusait avec tous les instruments accrochés partout sur les murs.
Mais c'est vrai, il y a une dimension presque du compositeur, du partage, de la fraternité, et le fait même d'avoir ce parcours vraiment d'autodidacte absolu qui fait que finalement il n'y a pas de barrière. Je pense qu'il était de fait un compositeur professionnel, mais qui ne s'est jamais considéré comme tel, et qu'il avait toujours envie vraiment de que tout le monde s'y mette, d'impliquer collégialement, y compris les gens qui n'étaient tout sauf des musiciens. Et on a souvent eu le témoignage de Pierre Richard qui racontait qu'il était toujours touché quand, par exemple, à l'inverse des musiciens professionnels qui ne voudraient pas que vous touchiez leur instrument, leur piano, au contraire, tout le monde s'y mette.
Oui, cette absence de snobisme, il se trouve aussi dans le type de film pour lequel il composait. Il y avait des films publicitaires, on parlait des courts-métrages, il y a eu des longs-métrages avec beaucoup de succès, mais ça allait dans plein de directions.
Oui, beaucoup de films publicitaires avec Jean Mineur notamment, et Bruno Zincone qui travaillait avec Jean Mineur. Ils ont fait énormément de pubs ensemble, et avec d'autres, avec Franco et autres.
Ouais. Le rapport direct de François de Roubaix au son, c'est encore dans l'émission de France Inter, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, 1970, François de Roubaix.
C'est un métier, on apprend ce métier-là comme on apprend à être cordonnier, je pense, et On est tenu à un certain nombre de données techniques auxquelles il faut se soumettre. Et ça, je pense que seule l'expérience peut l'apporter. On peut travailler le montage. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Pratiquement, j'ai été monteur de son et monteur de films, d'images, pendant 2 ans. Alors ça, si vous voulez, c'est ce qui m'a appris tout le côté très, très cordonnier, très, très artisan de la chose. Et en France, il n'y a pas d'autre façon de faire. Enfin, seule l'expérience peut remplacer.
Gilles Loison, est-ce que vous avez trouvé beaucoup d'enregistrements ou de notes écrites ou d'écrits quels qu'ils soient d'ailleurs, où François Droubet explique justement, là on a trouvé cette archive, on l'a trouvée grâce à vous parce que vous nous l'avez fournie, mais est-ce qu'il y a beaucoup de traces de la parole de François Droubet ou de ses écrits sur sa méthode de travail, sur son rapport au son et à la musique ?
Et tout d'abord, grâce à Patricia aussi et Benjamin, il faut le dire, puisque les archives, c'est eux. François tenait des dossiers sur toutes les œuvres qu'il enregistrait, en fait, sur tous les films, les courts-métrages. Donc, il ouvrait à chaque fois une chemise, un dossier. Et tout au début, il s'exprimait beaucoup sur ses premières musiques. Il était très autocritique envers sa musique et il notait des choses. Alors, il allait aussi aux sorties des cinémas, parfois, notamment d'un court-métrage d'Henri Co, pour entendre la réaction du public. Mmh. Et sur Cristaux Liquides, c'était Montagne Magique. Il avait utilisé beaucoup de percussions. Il a entendu une spectatrice qui sortait superbe film. Alors que de percussions. C'était beaucoup trop. Et il écrivait, il s'exprimait beaucoup sur la musique. Et il écrivait plein de choses aussi. Non seulement sur sa musique, mais des poèmes, des pensées qui passaient par sa tête. Il écrivait pas mal, ouais.
Patricia Droubet, cette question du public, du contact avec le public, de composer pour un film, donc c'est au service de quelque chose, et en plus donc avec ce souci du public.
Très important, très très important pour lui. Il était effectivement très, très direct avec les gens dans la rue. Il n'était pas dans une bulle extérieure, il était dans la vie, il est avec les pêcheurs, avec tout le monde.
Est-ce que d'après vous, il a, dans un genre populaire, quand on voit le cinéma d'Enrico, de Giovanni, quand on parle de François Droubet, les retours qu'il y a, c'est la musique des films du dimanche soir, ce que c'est devenu plus tard à la télévision, une forme de grande popularité. Est-ce qu'il a instillé une forme de recherche et d'avant-garde via sa musique dans ses films grand public, d'après vous ?
Probablement. Je pense que ce qu'il a insufflé, c'est ce qu'il était, profondément. Donc à partir de là, je pense qu'il ne s'est même pas posé la question, en plus.
Oui, c'est l'instinct,
c'est-à-dire
vraiment.
Qu'il était, oui. Voilà, c'était quelqu'un de très, très instinctif et de très direct, donc direct dans ses relations, ce qui a laissé énormément d'amis orphelins, et ce n'est pas pour rien, et de gens du métier aussi, qui avaient pour lui une affection autre que celle simplement de la relation du travail. Donc il y avait tout ça, ça se transparaît dans ces musiques.
Mais c'est marrant, pour rebondir sur votre question, moi j'ai un souvenir très très précis d'avoir vu La Choumoune de José Giovanni sur TF1 un dimanche soir de l'hiver 82, 83, je ne sais pas, j'avais 12 ou 13 ans.
Ouais.
Et je me rendais compte que je connaissais déjà de Roubaix, puisque j'avais vu des tas de séries de enfantine, de feuilleton avec sa musique, et je me rendais compte que quand même dans un cadre d'un cinéma, disons, relativement formaté, il faut le dire, il y avait quelque chose, une étrangeté, une différence, notamment dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'harmonie, dans le jeu avec les tonalités, dans ces modulations très très étranges. Et puis dans le cas précis de La Choumoune, un film qui se passe dans les milieux de la pègre, dans un contexte rétro et avec une musique électronique complètement conçu en home studio, composé, enregistré, joué, interprété par de Roubaix lui-même. Et je me disais, mais ça ne ressemble à aucun autre compositeur. Et tout de suite, même avant que son nom apparaisse au générique, je savais que c'était lui. Comme ça, en 3 mesures, 4 mesures, il y a une griffe, il y a une patte, qui de toute façon fait que la musique de Roubaix ne peut pas être identifiée ou être crédité à un autre compositeur.
Ouais, en une phrase, on reconnaît François Sagan, en quelques mesures, on reconnaît François Droubet.
En 2 mesures et demie.
Thank you.
dans l'atelier du son ce soir sur France Culture. On parle et on écoute François de Roubaix à l'instant, un générique pour un téléfilm, Gilles Loison.
Un feuilleton télévisé.
Un feuilleton télévisé pour l'ORTF en 1969. Ouais. Que ferait donc Faber? Et on entendait, bah, il y a des instruments, mais il y a des bulles de l'eau.
Exactement, il y a des bulles de l'eau, donc avec une paille, il souffle dans une petite bassine d'eau, et puis il rajoute des apôts, il rajoute une petite flûte. Pour illustrer le générique de ce feuilleton un peu loufoque de Dolores Gracian sur l'univers des farces et attrapes, dans les années 60.
C'est bien ce qui me semblait.
Mais alors comment accueillir les commanditaires, l'ORTF, la télévision de l'époque, comment les gens accueillaient ces propositions-là? Est-ce que ça paraissait pas extravagant? Ça fait un style, mais ça peut aussi faire peur, non, de temps en temps, j'imagine.
Bon, en fait, c'était plus Dolores Gracian qui assumait la chose, ouais. Puisqu'il y a eu quand même des courriers positifs et beaucoup de négatifs à l'époque sur la diffusion de ce feuilleton. Donc, à partir du moment où la musique était acceptée par le réalisateur, il n'y avait pas de... L'autre souci à l'ORTF, c'est que quand on enregistre une musique pour l'ORTF, théoriquement, on devait enregistrer à l'ORTF avec un orchestre. Et François ne le faisait jamais. Donc, pour satisfaire et pour bon, qu'il soit dit qu'une musique soit enregistrée pour l'œuvre, il lui arrivait, par exemple, sur un téléfilm, d'enregistrer la Marseillaise avec l'orchestre, un truc qu'il n'utilisait pas ensuite et il pouvait faire sa musique.
Pour avoir le bon tampon, ouais, sur la bonne feuille.
Mais moi, j'ai envie de dire que Stéphane Leroux, c'est qu'un compositeur qui est instinctivement savant, expérimentateur, mais en même temps d'expression populaire. C'est-à-dire que sa musique a toujours une ligne de chant qui vraiment parle au cœur, au sentiment. Il y a toujours une mélodie qui accroche. Alors, il peut se permettre en dessous, par l'harmonie, d'expérimenter, donc instinctivement, par l'orchestration, par le traitement. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a des compositeurs qui ont fait un peu plus peur que de Roubaix.
Mais dès le premier film de télévision, d'ailleurs, Gilles Loison, il y a des lettres qui arrivent à la télévision pour demander « Mais qui a fait cette musique? Est-ce qu'on peut l'obtenir ?»
Sur La redevance du fantôme, oui, oui. Bon, qui était en partie une adaptation, mais oui, il y avait des lettres en demandant « Est-ce qu'il y a un disque? Est-ce qu'il y a un disque ?» Et sur plusieurs, même sur certains films, François aurait souhaité qu'il y ait des 45 tours. Il y avait des échanges avec les éditeurs, mais ça ne se faisait pas. Et il y avait une forte demande du public, oui. Quasiment, son nom était inconnu. On demandait le nom du compositeur et s'il y avait un enregistrement disponible.
Aujourd'hui, on peut trouver à peu près tout François de Roubaix sur CD, les uns les autres, les uns avec les autres. Vous avez édité énormément de choses, Stéphane Lerouge.
Oui, on peut tout trouver. Juste pour compléter ce que disait Gilles, ça m'a beaucoup frappé parce qu'on a fait un disque qui s'appelle François de Roubaix, chansons de film, il y a 2 ans chez Universal, donc dans la collection dont je m'occupe, Écouter le cinéma. Et il figure donc des tas de chansons avec des interprètes complètement éclatés. Hein. Ça va de Delon, Nicoletta,
Brigitte Bardot, Reggiani, Hugo Frey, Gilles Dreux, avec qui il avait des projets d'ailleurs quand il est disparu. Oui, c'est quelque chose qui l'intéressait, la chanson.
La chanson l'intéressait. D'ailleurs, c'est marrant parce que dès son deuxième film avec Enrico, Les Aventuriers, il va tout de suite avoir l'idée de transformer l'un des thèmes du film en une espèce de ballade interprétée par Alain Delon, qui est complètement hors film. Ce souci aussi, ce que disait Patricia tout à l'heure, de communiquer avec le public. Et ce qui est très curieux, juste une fois encore pour rebondir sur ce que disait Gilles, c'est que, par exemple, Olivier de Funès, que j'ai interviewé pour le livret du CD, m'a raconté que, par exemple, son père, donc Louis de Funès, et lui-même avait été complètement scotché, défenestré quand ils avaient vu une série, enfantine, sur la première ou deuxième chaîne de l'ORTF qui s'appelait Pépin la Bulle. Ouais. Et que brusquement, cette musique avait été un choc pour eux par le traitement, la mélodie, l'étrangeté, l'intégration de bruitage. C'est un peu déjà un pré-chapi-chapeau, Pépin la Bulle.
Oui, c'est les mêmes créateurs.
C'est les
Bestioles et Lonati. Et c'est vrai que quand ensuite Serge Corbert, un an plus tard, a dit à De Funès, pour l'homme orchestre, ça va être de Roubaix, là, ça a été génial. On va enfin travailler avec le compositeur de Pépin la Bulle.
Pour la télévision, un peu plus tôt, il y avait une autre collaboration avec un chanteur qui commençait à avoir un petit succès.
Baby.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Les essais, les tentatives de percussion dirigées par François Droubet, qu'on écoute un instant donc dans l'Atelier du son. Et juste avant, le jeune chanteur qui avait son petit succès dans les années 60, c'était Johnny Hallyday.
Ah oui,
Bah voilà, Stéphane Leroux, vous voyez.
Qui était encore à l'époque contribuable en France.
Alors on va pas ouvrir certains dossiers qu'on laisserait devant la porte de l'Atelier du son. Mais en l'occurrence, on peut dire quand même que c'était pour les Chevaliers du Ciel, c'est ça.
Mais écoutez, je vais peut-être me faire stranguler par Benjamin et Patricia.
Alors et vous, on se défend et on se strangule, c'est ça.
c'est les deux mots clés.
Voilà.
Mais je dois avouer que j'ai le Droubet qui me passionne. Moi, c'est celui qui justement dans son home studio de la rue de Courcelles essaye de créer des ponts, des passerelles entre un nouvel outil électronique. Et puis des instruments issus d'ethnie, de folklore, comme ça, des instruments qu'il a ramenés de ses voyages. Et ça c'est vraiment une dimension expérimentateur qui est absolument fascinante parce qu'elle est unique. Dans le cas des Chevaliers du Ciel, je trouve que parfois Droubet a dû travailler avec des orchestrateurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Et je trouve que là on reconnaît son écriture, mais elle est un peu tiré, tordu, oui, vers une dimension un peu variété.
Mais il y a eu des questions quand même d'époque, malgré tout.
Oui.
Il a eu un parcours météorite, très rapide, une quinzaine d'années de production, même pas, professionnel de musique autour des films, donc de la télévision, des films d'entreprise, de publicité. Mais je crois que c'est 65, Les Chevaliers du Ciel.
Ouais.
C'est vrai que petit à petit, la question de la machine devient assez fondamentale. Il l'utilise pour son propre style. Il y a la question, par exemple, des accélérations, ralentissements, de bandes magnétique, Gilles Loison, ça fait partie du style de Droubet, ce qui donne une couleur et une patte aussi.
Oui, à la fois pour de temps en temps des questions de virtuosité, mais surtout pour une couleur sonore. Oui. Mm-hmm. Sur le Morcas, qui est l'exemple le plus célèbre, on va dire.
Donc ce film de Serge Corbère avec Louis de Funès, dont on parlait à l'instant.
Exactement. Donc la petite trompette qu'on entend au début, enfin la flûte au début et puis la petite trompette ensuite, en fait ce sont une flûte de pan et un trombone enregistrés à demi-vitesse, qui sont ensuite accélérés sur la version finale.
Ma démonstration de l'utilisation des différentes vitesses sur la musique qui a valu à titre posthume à François Droubet un César, la musique du Vieux Fusil, film de Robert Enrico, donc le compagnon, celui qui a aussi permis le pied à l'étrier. Vitesse normale, accélération, non, décélération, vitesse normale, voilà, on va passer de l'un à l'autre et successivement et on va se rendre compte, on peut en reparler juste après. Voilà, donc la musique du Vieux Fusil, là c'est tel que le piano a été enregistré, cette vitesse qu'on entend là, pendant que les cordes sont ralenties. Benjamin Droubet, l'oreille de musicien que vous avez sur cette méthode-là, laquelle?
C'est des choses qu'on a déjà dit et redit sur mon père, sur François, notre père. C'est qu'il était un précurseur aussi donc, de mélanger la technologie de son temps avec le simple fait d'être musicien. Donc, comme il le dit lui-même, qu'il a été ingénieur du son, donc il avait une capacité à utiliser les méthodes modernes, D'ailleurs, je crois qu'il allait faire un stage pour étudier le fonctionnement d'un certain orgue à Londres pendant peut-être une semaine, je ne sais pas combien de temps il est allé là-bas pour étudier un Moog, je crois que c'était un Moog.
Le clavier Moog, c'était un homme, les claviers le fascinaient, les voilà, orgues, les tout premiers synthétiseurs, synthé. Patricia Droubet.
Ah, les premiers synthés, c'était l'Alu, le premier qui rentrait dans le salon, son home studio. Il était comme un gosse, me disant, tu veux quoi? Tu veux un singe? Allez, je te fais un singe. Tu veux la jungle? Allez, voilà la jungle. Mais comme un gamin, et il sautait partout, il appuyait sur tous les boutons, un vrai gosse.
Il y a le clavioline, j'ai lu dans votre livre, Gilles Loison, qui est arrivé très tôt, qui était un premier clavier électrique.
Clavioline, ouais, de Martenot, je crois, utilisé dans Tométopéa, notamment, oui. Et puis, plus tard, dans un film de Pierre Jaloux qui s'appelle La chaise vide, il fait une apparition. Et il joue aussi un instrument inventé par Martenot qui s'appelle le claviarpe. Alors, c'est pareil, un petit instrument comme ça, avec... des touches fixes, il promène son doigt là-dessus, ça fait une mélodie. Donc oui, dès les années 60, il s'intéressait beaucoup à ces instruments-là.
L'organa aussi qui fait un son d'accordéon, ça aussi je l'ai lu sous votre plume. Et puis il enregistre aussi des orgues d'église, il enregistre même l'orgue de son propre mariage.
Ah bon? Ah bon, c'est bien,
c'est Gilles Loison qui l'écrit.
Oui. Non, d'accord.
Il enregistrait la cérémonie de son mariage, oui.
Oui. Ah, mais je l'ai lu pourtant.
Je vous le conseille en tout cas, j'espère qu'on le verra bientôt.
Moi j'étais à la relecture quand même.
Oui.
Donc oui, la question du clavier, des orgues, ça, l'enregistrement dans des églises même, en
oui,
demandant bien l'autorisation.
Oui, justement, il y a l'église en plus de, je pense surtout à Saint-Roch, où il a enregistré avec Michel Klochkov le fameux thème magnifique de l'enterrement sous-marin
des
aventuriers, magnifique. Et c'était donc avec le grand orgue de l'église Saint-Roch.
Ouais. Alors on a parlé à l'instant des questions d'accélération, ralentissement. On aurait utilisé ça même sous forme pour donner une couleur, comme vous disiez, Gilles Loison. Puis il y a la question du re-recording sur une même bande. C'est ça, c'est quoi le re-recording, Gilles Loison?
Oui, bah au début, en fait, ça fonctionnait avec des magnéto Revox à deux pistes, donc on s'enregistrait sur une première piste, puis ensuite avec un instrument, on enregistrait un deuxième instrument sur une deuxième piste tout en réenregistrant la première piste, et on passait d'une piste sur l'autre pour arriver à une musique finale. Bon, le problème c'est que dans cette technique là on perd un peu ce qui a été enregistré en premier. C'est pour cela que François a fait installer un 8 pistes, un magnéto 8 pistes des 71 chez lui, où là il pouvait enregistrer les pistes séparément, donc il commençait à jouer d'un instrument. Il enregistra un autre instrument sur une autre piste, etc., comme ça se faisait dans les studios de variété à l'époque.
Petite leçon de re-recording avec une musique courte destinée à un film resté fameux, Les Lubrifiants dans l'industrie.
Ah oui.
De Daniel Absil, qui date de 1970, et on commence par la base de piano.
Musique 5. 1
Et on ajoute la basse sur le piano. Troisième chance, troisième tour de bande, le synthé. Quatrième tour de bande, on ajoute enfin les percussions. Voilà. Pardon, Benjamin Roubaix, vous disiez quelque chose.
Non, non, parce qu'on rigolait un petit peu pendant que... Donc, ça me faisait penser à la petite mélodie à du Jean-Sébastien Bach.
Oui, ça aurait pu être sur du clavecin, effectivement.
C'est très d'union entre les lubrifiants et Bach.
Oui, je pense.
C'est ça. Mais c'est, moi, ça m'a, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a toujours étonné de voir un compositeur qui soit allé aussi loin, et je ne connais aucun autre, dans la maîtrise de toutes les étapes du processus de création, puisqu'il est le compositeur, il est l'interprète, il est son propre ingénieur du son et mixeur, et il contrôle tout.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane Lerouge, ce basculement, ce moment où il s'approche, ou alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a l'électronique, c'est un des pionniers de la musique électronique. Vous avez d'ailleurs édité deux disques autour de justement, la musique électronique de François Droubet.
Ben, moi, ça aussi, c'est quelque chose qui est très troublant dans ce parcours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, disons, trois années, je parle sous contrôle de mes trois camarades, disons en gros de 72 jusqu'à 75, donc trois années et demie au cours desquelles vraiment il va, je dirais pas se replier, mais il va y avoir un double mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, le cinéma va un peu s'éloigner de Deroubet. C'est très curieux, hein, c'est très paradoxal, mais il va voir les trois dernières années de sa vie qui vont être quand même marquées à l'issue par le succès public du Vieux Fusil, le film et la musique. Mais ça va être des années au cours desquelles, par exemple, il ne va pas travailler avec Enrico sur un film qui s'appelle Le Secret, ni avec Giovanni sur Deux Hommes dans la Ville. Donc ces deux piliers, finalement, hop, voilà, il ne les aura pas sur ces deux films-là. Il y aura un rendez-vous manqué dont on parlera peut-être tout à l'heure avec Cousteau.
Bah parlons-en tout de suite, parce que ça rentre, j'imagine, dans cette question du rapport à la musique électronique, c'est cette période-là.
Bah, c'est-à-dire que, voilà, il y a un rendez-vous qui tombait sous le sens, et ce rendez-vous a fini par avoir lieu. Cousteau confie à Deroubet un film de sa série... là, sur l'Odyssée de la Calypso. Et pour Deroubet, c'est une rencontre vraiment, mais tellement évidente, de rencontrer quelqu'un qui est un amoureux des océans, de la mer.
Comme lui, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'était quelqu'un qui était fasciné, vous le disiez, Patricia Deroubet, par la nature, et en particulier par la mer et par la plongée. Et c'est, il est mort dans un accident de plongée, François Deroubet. Et donc, il y a quand même cette rencontre physique avec Cousteau qui commande de la musique.
De la musique sur ce film, qui existe d'ailleurs, qu'on peut voir, mais malheureusement avec une autre musique, celle de Deroubet. Et Deroubet, évidemment, amoureux aussi de l'écologie maritime, se dit, voilà, je vais pouvoir... Son inspiration est complètement décuplée. Et simplement, il n'a pas mesuré un élément, c'est que Cousteau a, en termes de musique, disons, des goûts relativement frileux, pour ne pas dire conservateurs. Et Deroubet va écrire une partition qui est peut-être l'un des grands joyaux méconnus de son parcours. Et quand Cousteau va mixer la musique à l'image, il va avoir très très peur. Il trouve que finalement la musique de Deroubet, l'écriture de Deroubet, le traitement même de cette musique entraîne ces images vers quelque chose, vers une forme d'expérimentation qui pour lui est complètement hors sujet. Et il va remplacer la musique de François Deroubet par du Ravel, dirigé par Serge Baudot. Et c'est très curieux parce que ça fait aussi partie des petites meurtrissures de ces trois années, 72-75. Et aujourd'hui, quelque part, on a rendu justice à cette musique puisqu'on l'a... on a pu la révéler, la dévoiler dans sa pleine dimension.
Non, je voulais juste rajouter qu'on en a fait un 33 tours aussi, qu'on trouve chez Ouémé, et puis dire qu'au-delà de ce travail qui était évident pour François, je pense qu'il admirait beaucoup Cousteau.
Il était terriblement
déçu.
Et
c'est un conflit de génération aussi. Il y a peut-être un rapport au père, parce que Cousteau était un peu comme son père, et donc se faire comme ça, évincer par une figure paternelle, je pense que François en a beaucoup souffert, sans le connaître.
La voilà cette musique.
Thank you.
L'Antarctique, l'ouverture de la série écrite pour Jacques-Yves Cousteau, mais que Cousteau a finalement refusé pour finalement choisir Ravel, illustrer son, ainsi son documentaire. Patricia Droubet.
Oui, je voulais rendre hommage vraiment très fortement à Jean-Pierre Pélissier, qui a remis cette musique qui a donc été refusée, alors que lui avait vu la première projection du film et avait trouvé que ça collait tellement bien aux images. Il avait vu la déception de François, il avait travaillé évidemment avec François à l'enregistrement de cette musique.
Comme ingénieur du son, oui.
Comme ingénieur du son, bien sûr, puisque c'était son principal ingénieur du son de tout au long de sa carrière. Et donc il a fait un troisième album après avoir sorti deux premiers albums après la mort de François,
vinyles,
mais justement des 33 tours de chez Barclay. Il a sorti un troisième vinyle qui était le plus apprécié des collectionneurs, parce que justement c'était pas les musiques les plus connues, à part Mordinguide qui était un feuilleton télé, mais il y avait dedans l'Antarctique découpé en plusieurs petits morceaux et avec d'autres noms. Il a mis d'autres noms dessus puisque c'était une maquette refusée. Et Jean-Pierre Pélissier donc a eu cette merveilleuse idée de le mettre en forme. Et ensuite, Stéphane Le Rouge a fait un autre montage. Il a repris le montage un peu du film de l'Antarctique, repris après le montage de Stéphane, repris après par Weme Records, Fred Mergam, merveilleux éditeur belge passionné.
Ce qu'on entend aussi, et depuis le début de cette émission, c'est que François Droubet était un homme de mélodies qui peuvent apparaître simples au départ. Et en fait, par exemple, il y a des choses qui sont de l'ordre de la fausse boucle dans l'écriture de François Droubet et Gilles Loison. On croit à la répétition, et en fait, c'est un peu le champion du demi-ton inattendu qui nous amène vers ailleurs.
Oui, tout à fait. Au contraire de certains musiciens, on va dire, comme Ennio Morricone, qui fait des mélodies sur 3 notes, 4 notes, François avait quand même une palette mélodique assez large. Hein. Si on prend le thème d'Avou Joe Miller, ça part sur 5-6 notes, ça monte, ça revient, ça descend. Il
Faut que tu le chantes, Gilles, pour illustrer.
Et donc, c'est vrai que... on n'est pas sur 3 notes, alors que beaucoup de musiciens utilisent des motifs de 2-3 notes.
Est-ce que ça peut expliquer ça, justement, cet argument, j'allais dire, véritablement musical, la postérité aussi de François Droubet? C'est que la musique tient en tant que telle, au-delà de la matière, ce dont on parle depuis le début, c'est que Stéphane Le Rouge, ça tient, ça passe les années.
Écoutez, je ne sais pas, on dit toujours, c'est un peu à la fois un truisme, la palissade, que la bonne musique de film doit autant servir le film que la musique. Et je pense que Droubet, vraiment, n'a pas renoncé à sa personnalité quand il s'est retrouvé en face de Enrico, Giovanni, Melville, Mocky. Il a simplement ajusté sa personnalité. C'est-à-dire qu'il s'est servi des sujets des films pour révéler des versants de sa propre personnalité à lui.
Ce qui fait voyager aussi la musique et jusqu'à nous et à travers les années, c'est le sample. François Droubet est un musicien qui est utilisé aujourd'hui par d'autres musiciens internationaux et à travers donc les samples, les boucles, les échantillons. Et justement, on a fait un petit montage pour l'atelier du son ce soir des différents interprètes, différents musiciens qui utilisent les morceaux de Dernier domicile connu, fameux thème de François Droubet. Et donc, dans l'ordre, on va entendre la musique originale. Robbie Williams dans Supreme, Lil Bo qui interprète That's My Name, une reprise signée Twitch, retour à l'original, Nicolas Repac, Alif Tree, et enfin encore retour à l'original, Patricia Droubet.
Il manquait le premier, les tout premiers, c'était Keops,
Keops.
Qui a fait du groupe IAM, avait fait Forest Hill, et qui avait fait donc Def Bond, et c'est lui qui avait pris le sample qui a priori peut-être a été embarqué par les autres.
Très bien, donc un montage lacunaire. Thank you.
stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
Hair nappy, but I'm happy pocket full of dough. From the CEO representing so-so. The girls recognize it, these do too. I'm the flyest thing walking through junior high school, so make room next to your little backstreet poster, cause Bow Wow's here and it's over. You heard? I'm this, I'm that, I'm all of the above, in a big body shot, riding on doves. I've been seen with the baddest, heard with the best, and I got it locked down from the east to the west. Look in my eyes, y'all know I ain't playing, that's why all through the streets all I hear saying is Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now.
Introduction to the Bad Boy production. Musical this to make a jump at Chip Thatcher. It's the big white sun. Well, it's ice cold in Alex, warm in my palace. My spiritual barracks are fortified from malice. Many turn bakers, hate made them jealous. Alice found joy in the face of a chalice. And that callous on the soul made a heart turn cold. Another victim of the is this how we roll. We stroll down love lane with hate and pure pain. Street trash get smashed and bashed by cocaine. Cold suits, cold streets, cold hearts and cold flame. Cold cash by souls, wallets with blood stain. Fat cats on the prowl looking for wild game. Secret guilds still build while they hold the rain. And it's
thank you.
Et voilà, on arrive très vite à la fin de cet atelier du son qui était consacré, à François Droubet. Mais oui, Stéphane Lerouge, c'est fini. On entend pour terminer, une musique, celle du Samouraï, reprise par Nicolas Herrera, que vous nous conseillez en arrivant ici, Stéphane Lerouge. Donc, elle va nous servir à refermer la porte de l'atelier. Juste avant, c'était donc les différentes reprises et samplings de Dernier Domicile connu. Une question, Patricia Droubet, est-ce que justement, parce qu'on parlait justement des reprises, des réadaptations, est-ce que c'est compliqué de gérer ou de suivre cette postérité d'une œuvre, encore une fois, qui a été ramassée dans le temps, mais qui continue de vivre comme ça?
C'est à la fois compliqué et c'est à la fois formidable de voir qu'on puisse faire des nouvelles choses et qu'on puisse perpétuer et qu'il y ait des mélanges comme ça de générations et des gens qui étaient même pas nés quand il est mort et qui s'en saisissent et qui s'en amusent, et je suis certaine qu'il aurait adoré. C'est encore du bidouillage, donc il aurait forcément adoré. Mais il faut faire très attention. On est obligé avec Benjamin de gérer vraiment et de faire attention à ce que, par exemple, Chapi Chapeau, on a eu beaucoup de demandes.
Et je crois que c'est la musique de Chapi Chapeau.
Oui, ouais. C'est les rares où on est très très, on refuse, ou c'est pas pour refuser, mais c'est simplement comme c'est une musique qui est dans la légende personnelle des gens, et on peut très vite en faire quelque chose qui peut marcher, et il faut que ça soit de qualité.
Et peut-être pas le réduire à ça non plus.
C'est voilà, exactement. Donc on est très vigilant.
Oui, et puis c'est pas forcément une finalité, mais ça peut être aussi un moyen pour des nouvelles générations de découvrir les œuvres originales avec le remix comme outil. Ouais.
Merci à vous les uns et les autres. Benjamin Droubet, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non, je voulais dire que je suis très, très heureux d'être ici et que je suis surtout très heureux d'entendre la musique de mon père reprise par des artistes. Mmh. Voilà, c'est vraiment un pur bonheur quand j'entends ça à la radio.
Et on est ravis de vous avoir eu autour de la table aussi.
Je tiens juste à dire que Benjamin les reprend lui aussi, parce qu'il est musicien et qu'il a donc repris le flambeau à deux titres. Il fait ses propres compositions et qu'il a fait de très très belles reprises de la musique de son père.
Et il y a votre site internet, Benjamin
Droubet. Oui, il y a mon site internet, surtout à un album que j'ai enregistré au studio de Meudon il y a quelques temps et que je voudrais sortir au printemps, et où je reprends 4 titres de François. Mais c'est pas des reprises électroniques, c'est plutôt du jazz un peu fou, on va dire.
C'est vous qui avez le trombone de votre père.
Voilà, et je joue toujours avec.
Ouais, très bien. Merci à vous, merci Stéphane Lerouge, merci Gilles Loison. On espère que votre livre, la biographie que vous avez rédigée avec Laurent Dubois, va sortir pour de bon très bientôt. Il y a une exposition au mois de novembre, c'est une exposition photographique
dont le photographe François Louchet a été à la rencontre des amis et des réalisateurs qui ont travaillé avec François plus de 30 ans après. Il est en train de monter une exposition autour de ce thème.
On va suivre ça. Je signale aussi que le Sacre du Tympan, l'ensemble de Fred Palem, rend hommage régulièrement à François Droubet à travers un spectacle qui s'appelle L'Homme Orchestre. Et la prochaine fois, ça va se passer à Paris, au Duc des Lombards, dans 10 jours, en fait précisément le 25 octobre. L'atelier du son, c'est terminé. L'émission a été préparée et coordonnée par Inès de Brunet, Yael Mandelbaum à la prise de son. Ce soir, Olivier Dupré à la réalisation, Véronique Lamandour. On termine toujours sur la musique du Samouraï, reprise par Nicolas Herrera. Thomas Baumgartner, je vous laisse avec Aurélie Charron et je vous dis à la semaine prochaine.
Les ateliers de la nuit, c'est fini. La semaine prochaine, mardi, ce sera la nuit des magiciens avec Victor Massé de l'Épinay. Il s'est invité dans ce bar, près de Notre-Dame, où tous les mercredis, les magiciens, jusqu'à 5h du matin, ont rendez-vous pour s'échanger quelques secrets. L'atelier fiction de mercredi, ce sera le texte d'Alban Lefranc, Ali après. Il est parti sur les traces de Mohamed Ali avec les témoins d'aujourd'hui. Jeudi, le documentaire « Une rencontre insolite » de Katharina Van Bulow. Ce sont les retrouvailles de Katharina avec un ancien ami de son père, le baron Adolphe Van Bulow, diplomate porté disparu en 1944. L'atelier du son de Thomas Baumgartner recevra vendredi Kerwin Roland, ingénieur acousticien dans l'automobile et artiste sonore. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur. On sera en direct à 23h jusqu'à minuit et on parlera des ciels d'hier et d'aujourd'hui avec l'artiste Auguste Renaud d'Ormeuil qui a reconstitué le ciel des siècles passés. Il est temps d'entrer dans demain, c'est maintenant, il est minuit sur France Culture, tout de suite Alain Weinstein, du jour au lendemain.